Lizzie présente La Traque de Bernard Petit. Lue par Olivier Chauvel
et Florian Wormser.
Ce roman s'inspire de faits criminels réels vécus par l'auteur, mais narrés de façon romancée. Les noms des personnes ont été changés et les faits transformés. Il s'agit d'une œuvre de fiction. C'est l'histoire de deux mondes qui ne devraient jamais se croiser, habités d'hommes et de femmes que tout oppose, des destins différents qui font en réalité les tumultes de la vie. Ce livre audio prétend décrire la part obscure de notre société et, dans une certaine mesure, la complexité des relations humaines. À l'amitié, aux amis, aux vrais, et à tous ceux qui luttent contre la criminalité sans haine et sans colère. Quand on n'est plus qu'un paria, on ne vit plus vraiment, on attend. On attend sans savoir quoi au juste, jusqu'à ce qu'on comprenne. On attend juste la fin. Première partie. Violence et engrenage. Chapitre 1. 10 mars, centre-ville de Bruxelles. Vêtus de leurs combinaisons blanches, équipés de leurs appareils de mesure, les techniciens de la police scientifique sont déjà à l'ouvrage. Ils procèdent aux premières constatations, mais l'opération ne révèle rien d'intéressant. Aucune trace de lutte ni de sang, et pas de trace papillaire, si ce n'est celle de la victime. Quant au profil ADN, il faudra attendre quelques jours pour les résultats. En présentant ses conclusions au procureur du roi, le chef du laboratoire de la police scientifique conclut laconiquement « C'est comme s'il s'était purement et simplement évanoui dans la nature. » La Belgique est donc encore une fois secouée par une terrible affaire judiciaire. Henri Boutmans, une figure politique très populaire du pays, de surcroît ancien ministre de l'Intérieur, a disparu dans des circonstances qui ne laissent guère de doute. Il s'agit d'un enlèvement. La famille a donné l'alerte aussitôt après avoir découvert la voiture du patriarche, portière béante comme abandonnée à l'intérieur du parking privé de son immeuble. La victime a été vue pour la dernière fois aux environs de 20h au volant de son véhicule, attendant l'ouverture automatique de la porte du garage. Surnommé le cardinal, en raison d'un mode de vie des plus austères, Henri Boutmans rentrait chez lui tous les soirs pour dîner avec les siens. Pour tous ceux qui le connaissent, une escapade improvisée est tout bonnement impossible. Et puis, il y a cette lettre qu'on a retrouvée dans sa voiture et dont le grand public ignore encore l'existence. Quelques heures plus tôt, le procureur a aussitôt pris la décision de confier cette enquête à la police criminelle. Il sait que les moments à venir vont être difficiles. Il va falloir gérer l'impatience des politiques et les interrogations de l'opinion, orchestrées par les médias qui, comme d'habitude, font preuve d'une réactivité sans pareille. Directement ou via le procureur général, le cabinet du ministre va le harceler et exiger d'être tenu informé au fur et à mesure des investigations. Hors de question, en effet, que le gouvernement soit pris de court. Sans parler de la famille de la victime, qui se plaindra tôt ou tard de l'action ou de l'inaction des pouvoirs publics. Il connaît tout ça par cœur. Demain, il réunira tous ses substituts dans la grande salle du conseil et fixera clairement les missions de chacun. Il se dit aussi que cette affaire tombe mal, vraiment mal, pile au moment où il est pressenti pour remplacer le procureur général, bientôt à la retraite. Il se doit d'être irréprochable. La police a intérêt à se bouger le cul, pense-t-il en composant le numéro du directeur de la police criminelle. Il songe également à son épouse et à leur soirée théâtre qui tombe à l'eau. Il est maintenant presque minuit. Ce soir, il se sent bien là, comme il l'est de plus en plus souvent ces temps-ci. Plus de 35 ans qu'il fait ce métier. En face du palais de justice, dans son bureau de la place Frédéric Toussaint, au 7e étage, malgré l'interdiction de fumer, le chef de la police criminelle, Paul Van Erste, a allumé un cigare. Il a dégrafé sa cravate et ouvert le col de sa chemise. Il soupire. La nuit va être interminable, mais cela ne le gêne guère. Il y a longtemps qu'il a rejoint la cohorte de ceux qui se sentent mieux au travail que chez eux. Bruxelles est désormais en état de siège. Des sirènes de police résonnent dans les rues et des lumières bleues éclairent par intermittence les façades des immeubles. Le procureur du roi vient de le contacter pour lui remettre un coup de pression. Il a cru bon d'ajouter « Je ne veux surtout pas de fuite dans la presse. Nous devons être irréprochables. » La remarque a fait sourire le directeur qui s'est retenu de lui répondre que les fuites ne sont pas l'apanage de la police et que les magistrats eux-mêmes y sont en fait rarement étrangers. Mais qu'importe. Il est trop fatigué pour relever le gant et surtout il a passé l'âge. Les postures et l'hypocrisie ne l'amusent plus depuis un moment. Il en est là de ses réflexions quand le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, c'est un conseiller du cabinet qui l'avertit amicalement que le ministre suit en personne le dossier et qu'on attend de lui des résultats le plus vite possible. Comme s'il fallait le lui rappeler. Comme s'il n'avait pas hâte, lui aussi, d'arrêter les coupables. Et voilà, maintenant il est bougon. Il déteste les tirs au flanc, mais plus encore, les lapins de corridor, ces individus qui hantent les bureaux de la très haute administration et ignorent totalement la réalité du terrain tout en se permettant de donner des conseils à la terre entière. Et toujours ce maudit téléphone. Cette fois, c'est le directeur général de la police, son supérieur direct. Paul Van Erste se saisit prestement du combiné. Il serait contre-productif de faire patienter celui que tout le monde ici surnomme « la voix qui tue ».
Van Erste ?
Oui, monsieur le directeur général.
Rien de neuf ?
Non, monsieur le directeur général.
Vraiment rien ?
Non, rien pour l'instant.
Van Erste, vous réalisez qu'on court à la catastrophe si cette affaire n'est pas résolue dans les plus brefs délais ?
Oui, bien sûr.
On n'a pas le droit à l'erreur. Les plus hautes autorités prennent ce dossier très à cœur.
Oui, monsieur le directeur général. Soyez assuré que nous allons élucider cette disparition.
Mais j'y compte bien, Van Erste. Qu'est-ce que vous croyez ? Ce que je veux surtout, c'est que vous accélériez le mouvement.
Je fais de mon mieux.
Le ministre doit être libéré au plus vite. Vous m'entendez ?
Oui, bien sûr.
Cette lettre, retrouvée dans la voiture, apporte quelque chose au moins ?
Oui et non. De toute façon, nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent.
J'espère que vous m'avez bien compris, Van Erste. Ne vous ratez pas. Surtout, ne vous ratez pas.
Oui, monsieur le directeur général.
Vous allez voir, les journalistes vont nous tomber dessus.
Certainement.
Bon, vous m'appelez dès qu'il y a du nouveau, quelle que soit l'heure. Saisi ?
Oui, monsieur le directeur général. Van Erste n'a pas le temps de lui dire au revoir que le directeur général a déjà raccroché. Enfin, au calme et profitant de la sérénité que lui apporte son cigare, il songe à ses coups de fil en cascade. Le ton du directeur général était clairement hostile, mais l'homme est réputé pour prendre plaisir à faire perdre tous leurs moyens à ses collaborateurs. Il est dans son rôle. Van Erste se fait la réflexion que les choses étaient plus simples avant, à ses débuts, quand il n'était encore qu'un sans-grade. Il arrêtait les bandits et protégeait les honnêtes gens, rien d'autre. Un monde binaire, certes, mais qui, il s'en rend compte à présent, lui suffisait amplement. En suivant du coin de l'œil les volutes de son cigare dans le silence de la nuit, il se conforte dans l'idée qu'agir de manière précipitée sur ce dossier pourrait être catastrophique. Qu'arrive-t-il au monde ? Pourquoi veut-on que les choses aillent toujours plus vite ? Les gens ne vivent désormais que dans l'immédiat et l'empressement. À cet instant, il a une pensée furtive pour ses amis du club de cigares, la cape et l'épée, la plupart étant militaires, policiers, juges ou avocats, et pour leurs éternels débats sur le monde d'aujourd'hui. Le contraste entre le calme de son bureau et ce qui se passe au dehors est saisissant, voire inapproprié, gronderait la voix qui tue. L'annonce de l'enlèvement a fait l'effet d'une bombe. Sous l'action des médias et des informations en continu, la ville s'est instantanément mise en ébullition. Même quand il n'y a rien à dire, il se trouve un envoyé spécial pour l'expliquer, et par ricochet, un expert pour le commenter. Le Muppet Show a commencé. Tous les vieux directeurs de police sortent de leur placard pour apporter leur analyse, et peu importe qu'ils aient quitté leurs fonctions depuis bien longtemps. D'aucuns ont même le culot de téléphoner au service pour savoir de quoi il s'agit avant d'aller faire les beaux sur les plateaux télé.